Et on va maintenant aborder la prise en charge administrative avec vous. Oui, oui, on les prendra tout à l'heure, promis. On fera un petit point question papier, on fera la fin pour une dernière salve de questions. Prise en charge administrative maintenant avec vous, Ghislaine et Nadine. On commence avec vous, Ghislaine. Quelles sont les différences entre une invalidité CPM et une invalidité MDPH?
Ah là là, il y a beaucoup de confusion là-dedans. D'ailleurs, pendant la pause, j'en ai discuté avec des personnes qui confondent la CPAM et la MDPH. Donc, ce sont deux organismes totalement différents. Alors, il existe trois invalidités au niveau de la CPAM. Vous avez la catégorie 1 qui permet à la personne de toucher 30% du dernier salaire et normalement, elle doit travailler. Son revenu total d'indemnité et le salaire ne doivent pas dépasser le dernier salaire. La catégorie 2, la personne touche 50% du dernier salaire sans obligation de travail. Le revenu total d'indemnité, d'invalidité et salaire ne doit pas dépasser le dernier salaire. Et la catégorie 3, c'est-à-dire que c'est la personne qui a besoin d'un tiers pour l'assister dans ses gestes quotidiens. Et le montant de la pension équivaut à celui d'une pension de deuxième catégorie, c'est-à-dire 50% du salaire augmenté d'un montant forfaitaire appelé majoration pour tierce personne. Mais quand on est en catégorie 3, on n'a pas le droit de travailler. Lors d'une invalidité, tous les soins médicaux et de maternité, enfin en général quand on a la fibro, on sait plutôt vers les quarantaines, sont remboursés à 100% du tarif sécurité sociale, sauf les médicaments à service médical rendu modéré ou faible, les anciennes vignettes orange et bleue. Il n'y a pas de notion d'affectation ayant entraîné l'invalidité. L'invalidité CPAM concerne le travail uniquement et une compensation financière. Contrairement à la MDPH, qui est la maison départementale des personnes handicapées, celle-ci n'est pas liée du tout au travail, mais au handicap et au quotidien. Donc là aussi, comme Mme Azoulay l'a dit, vous pouvez bénéficier d'une AAH suivant les revenus, tout ça, et d'une PCH, mais on va en parler tout à l'heure. Oui.
Alors justement, Nadine, du côté de la CPM, qu'est-ce qu'on entend par l'ALD ? Beaucoup siglé hein, aujourd'hui. Oui,
Excusez-moi. Donc, vous êtes nombreux des fois à poser la question sur l'ALD. Donc, l'ALD, ça veut dire donc affection longue durée. Hein, donc, ça concerne toutes les maladies chroniques. Mais l'attribution ou non d'une ALD ne dépend absolument pas d'un arrêt de travail. Il y a souvent confusion aussi là-dessus. Hein. Et bénéficier d'une ALD, ça permet quoi ? Ça permet d'être remboursé à 100% des soins médicaux qui sont engagés pour la pathologie qui est déclarée. Que pour celle-là, hein, évidemment. Hein. L'ALD, elle permet de ne pas faire l'avance pour les soins de kiné, de balnéothérapie, mais elle permet aussi un meilleur remboursement pour les cures thermales. La demande d'ALD est à faire par le médecin traitant sur un imprimé CERFA qui s'appelle protocole de soins. Ce formulaire indique là où les pathologies, mais aussi les soins et traitements qui sont mis en œuvre pour cette prise en charge de ces pathologies.
Est-ce qu'il y a des critères, j'imagine, d'attribution ?
Oui, alors ces critères d'attribution ont été revus donc, par la circulaire du 8 octobre 2009. Donc, et surtout en ce qui concerne les soins coûteux, parce que ça a entraîné trop de subjectivité de la part des médecins conseils. Puisque dans le temps, on disait, il faut pour avoir une ALD, il faut qu'il y ait des soins coûteux. Et c'était pas précisé. Donc les médecins conseils, pour eux, c'était très subjectif. Et voilà, c'était un petit peu à la tête du client, si on peut dire. Voilà. Donc la circulaire du 8 octobre 2009 précise tout ceci. Donc il faut répondre à trois critères principaux. La maladie doit être grave, évolutive ou invalidante, et pour laquelle il y a soit un risque vital encouru, soit une morbidité évolutive, soit une qualité de vie dégradée. Le deuxième critère est que le traitement prévisible doit être supérieur à 6 mois. Et enfin, le troisième critère était que cette affection doit entraîner des soins particulièrement coûteux dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a une liste des prestations et des actes qui sont répertoriés et qui doivent être en rapport avec la pathologie pour décider que les soins sont coûteux. Donc, vous avez 5 éléments et il faudra en remplir au moins 3, dont le premier impérativement. Donc, je vais vous les citer. il faut un traitement médicamenteux régulier ou un appareillage régulier. Il faut avoir des hospitalisations, avoir des actes techniques médicaux répétés, des actes biologiques répétés, des soins médicaux, paramédicaux répétés. Donc, ce panier de soins donc, est considéré comme coûteux, comme je vous l'ai dit, s'il comporte au moins 3 des éléments parmi les 5 que je viens de vous citer, mais dont obligatoirement le traitement médicamenteux ou l'appareillage. Comme vous le voyez, ces critères sont sévères. Et comme vous vous en doutez, pour la majorité des fibromyalgiques, on ne rentre pas dans ce cadre. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, en réalité, si vous avez une bonne prise en charge, vous n'avez pas tous ces soins. Vous n'avez pas d'appareillage, vous n'avez pas d'hospitalisation. On ne fait pas des examens médicaux répétés. Une fois que vous avez fait tous les examens pour diagnostiquer et éliminer donc les IRM, les scanners, on n'a plus besoin de les refaire en permanence, pas comme certaines pathologies où il faut contrôler s'il y a évolution et tout ça. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'ALD sont refusés, puisque, en réalité, on ne rentre pas dans ces critères de 2009.
Restons sur l'ALD, mais l'ALD 31, de quoi s'agit-il ?
Donc, il existe au niveau de la CPAM une liste de 30 pathologies qui sont nomenclaturées. Voilà. Et qui peuvent donner accès à une ALD si les critères d'attribution qu'on vient de voir, là justement, sont remplis, bien entendu. Cette liste a été mise à jour, elle est mise à jour régulièrement, elle a été mise à jour en 2011, et par exemple, vous voyez, l'hypertension artérielle, elle n'en fait plus partie. Les pathologies qui sont concernées sont en rapport avec le cœur, les poumons, le foie, le sang, les affections psychiatriques. Bon, je vais vous en citer quelques-unes, pas toutes de ces 30 pathologies. Bon, vous voyez que c'est différent de la fibro. Donc, c'est le VIH, le diabète, Alzheimer, Parkinson, maladie de Crohn, sclérose en plaques, la spondylarthrite, mais la forme grave, la mucoviscidose, le lupus, les transplantations d'organes, la tuberculose, etc. Alors, la fibromyalgie est certes une maladie chronique, mais elle ne figure pas dans cette liste. Comme elle ne figure pas dans cette liste, pour bénéficier d'une ALD, il faut donc demander une ALD hors liste, qui s'appelle l'ALD hors liste 31. Et bien souvent, les médecins se trompent. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure. Ou ils ne connaissent pas.
Bon. Qu'est-ce qu'on entend par ALD non exonérante, Nadine ?
Alors, donc, comme on vous l'a dit, les ALD donc, permettent d'être remboursés à 100%. Donc, on a que ce soit l'ALD 30 ou l'ALD 31 hors liste, on a exonération donc, du ticket modérateur. Donc, quand on ne peut prétendre à une ALD exonérante, donc à 100%, parce que, par exemple, justement, la pathologie n'entraîne pas les soins coûteux, il est conseillé de demander donc, une ALD non exonérante. Donc, cette ALD, elle peut être attribuée pour des affections qui nécessitent une interruption de travail. C'est surtout pour les personnes en situation de travail et qui sont en arrêt de travail, cette ALD non exonérante peut être intéressante par rapport aux autres. Donc, elle peut être demandée pour les pathologies qui nécessitent une interruption de travail ou des soins continus d'une durée prévisible égale ou supérieure à 6 mois. Donc, la reconnaissance d'une ALD non exonérante permet la prise en charge de l'assurance maladie à 65% du tarif de sécurité sociale, des frais de déplacement en rapport avec son ALD, des frais de transport et des frais de séjour liés aux cures thermales. Mais surtout, elle permet, bon, selon la situation administrative, selon les conventions collectives, il y a des exceptions malheureusement, mais en grande, très très souvent, elle permet de percevoir des indemnités journalières au-delà du 6e mois.
Et on termine ce tour d'horizon des ALD avec l'ALD 32 polypathologie. De quoi s'agit-il ?
Donc c'est une autre ALD qui existe depuis quelque temps déjà quand même. Donc comme vous avez dit, donc c'est l'ALD 32 polypathologie. Donc elle peut être demandée et attribuée lorsque la personne est atteinte de plusieurs affections, donc qui entraînent un état pathologique invalidant. Hein, et qui nécessite aussi des soins continus d'une durée prévisible supérieure à 6 mois. Donc ça peut être intéressant si vous avez d'autres pathologies que la fibromyalgie donc, et qui rentrent donc, dans le cadre de pathologies invalidantes, de demander donc, cette ALD 32 polypathologie.
Donc tous ces dossiers sont traités par la CPM, par l'assurance maladie. Pourquoi des dossiers sont refusés et que faire ?
Donc, les refus, en réalité, sont différents d'une caisse à l'autre pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a des disparités suivant les CPAM, et même à l'intérieur d'une CPAM, selon le médecin conseil qui vous reçoit, oui. s'il est fibrosceptique ou pas. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, mais une des raisons principales, malgré tout, c'est que la personne ne remplit pas les critères d'attribution déjà cités précédemment. Donc ça, c'est la base. Et beaucoup de gens, par exemple, se soignent en homéopathie, ne font aucun soin, hein, ou un petit nez. Bon, même si vous faites de la kiné deux fois par semaine, ce ne sont pas des soins coûteux. Hein. Donc ils font ça et ils se soignent par homéopathie, ne prennent pas de médicaments. Ça ne nécessite pas une ALD. C'est le principe même de l'ALD. Donc il n'y a pas de soins coûteux. Donc c'est normal que vous n'ayez pas, que vous ayez un refus. Hein. Donc si on ne remplit pas les critères d'attribution qu'on a vus tout à l'heure, donc ça c'est normal. Alors après c'est vrai aussi, c'est parce qu'il existe des médecins conseils, comme on a dit, qui sont fibrosceptiques. Hein. Et malgré les recommandations de la CPAM, hein, il ne faut pas croire que la CPAM est contre la fibro. Elle a déjà, il y a des directeurs qui ont déjà donné des directives donc à leurs médecins conseils pour une meilleure prise en charge de la fibromyalgie. Donc ces directives sont les mêmes pour tous, ces recommandations sont les mêmes pour tous, mais si vous avez un médecin conseil qui est fibrosceptique, malheureusement, il faut faire un recours et espérant un autre. Le médecin conseil, quand il est à l'intérieur de son cabinet, il fait ce qu'il veut. Hein, il est libre, et il a ses opinions, et voilà. Donc, après, il y a aussi beaucoup de dossiers ALD qui sont mal remplis, parce que le médecin n'a pas demandé la bonne ALD. Il y a beaucoup de médecins qui on les voit arriver, nous, les dossiers. Hein, Ghislaine s'occupe de cette partie-là aussi. Et on voit beaucoup de dossiers qui sont refusés. Et pourquoi? Parce que le médecin a demandé la ALD 30. Donc c'est certain qu'il y aura un refus. Elle ne fait pas partie de la liste, donc il y a un refus. Donc, mais il y a des médecins qui ne savent même pas que la ALD 31 existe. La ALD 31 hors liste existe. Donc, en plus... Il faut savoir aussi que si le médecin demande, pour éviter que le mot fibromyalgie perturbe un petit peu un médecin conseil, qui fasse tout de suite un blocage en voyant votre dossier, en voyant fibromyalgie, et puis il ne lise plus le reste, parce que malheureusement c'est ce qui arrive, hein, ce qui peut arriver, disons, si vous tombez sur un médecin conseil fibrosceptique, il ne faut pas que ce mot fibromyalgique soit seul, hein, et qui soit là en premier. Donc là, vous avez de grandes chances que ce soit rejeté. Donc, il est conseillé de mentionner une dépression, d'abord, en premier, il ne faut jamais nier la fibromyalgie, parce qu'à ce moment-là, on n'arrivera jamais à ce qu'il y ait une véritable reconnaissance de la fibromyalgie si nous, les malades, on le nie. Hein. Il ne faut pas le nier, mais il faut biaiser un petit peu, hein, sans mentir d'ailleurs, parce que donc, vous mettez en premier, par exemple, dépression réactionnelle. La dépression réactionnelle, elle est pratiquement pour nous tous, parce qu'à force de ne pas être reconnue, par son entourage, par le milieu social, familial, professionnel. Bon, il y a des moments où on baisse un peu les bras, et voilà. À force de ne pas dormir, d'avoir mal 24 heures sur 24, ça peut engendrer un état dépressif, dont ce qu'on appelle une dépression réactionnelle. Donc,
Ghislaine. Je voulais préciser que la dépression réactionnelle, c'est la ALD 23 qui existe dans les 30
pathologies
de la nomenclature de la Sécurité sociale. Donc, le médecin ne met pas votre dossier de côté. C'est un petit peu biaisé, mais il faut le faire. Voilà.
Biaison.
Ouais. Donc, il faut noter en premier donc dépression réactionnelle, comme ça, il voit dépression, ça va. Et après, vous marquez douleur de type neuropathique, pas neuropathique, parce qu'une fibromyalgie, on n'a pas d'atteinte. Hein. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas d'atteinte. Donc, nos douleurs ressemblent à des douleurs de type neuropathique, donc elles sont de type neuropathique, mais elles ne sont pas neuropathiques. Donc, douleurs de type neuropathique diffuse, hein, puisqu'on les a partout, et invalidantes, et fibromyalgie. Voilà. Donc, d'accord. Alors...
On joue sur les mots, mais chaque mot compte, hein, on l'a vu.
Oui. Arrêtez, si chaque mot compte. Et on ne ment pas, c'est la vérité, mais on le met dans un autre ordre, sous une autre forme.
Ghislaine. Et il faut que ce soit dans cet ordre-là.
Oui, c'est ça, c'est une autre forme.
Voilà, non. Le mot fibromyalgie, vraiment...
Il doit être à la fin. Et dépression en premier, et douleur de type neuropathique, diffuse et invalidante. Alors, vous me demandez si c'était possible de faire appel, hein, s'il y avait un refus. Donc oui, il est possible de faire appel d'une décision de refus Mais avant de faire appel, vérifiez justement par rapport à ce qu'on vient de vous dire et tout ça, si votre dossier a été bien rempli. Sinon, si vous allez faire un appel sur un dossier qui est mal rempli à la base, ça ne sert absolument à rien. Donc, vous ne faites pas appel et vous revoyez votre médecin et vous lui demandez de remplir, vous demandez à faire un nouveau dossier que vous représentez quelques temps plus tard et bien rempli. Et comme on disait tout à l'heure, si vous avez un médecin qui ne croit pas en la fibromyalgie ou qui n'a pas envie de s'embêter avec les dossiers administratifs, ce n'est pas la peine. Il va vous bâcler votre dossier. Donc, vous repartez, vous changez de médecin et vous lui demandez bien de ne pas mettre une ALD 30 classique. Hein. Alors, si votre dossier est bien rempli, donc là, vous pouvez faire appel, mais il faut savoir aussi quand même que c'est sans garantie de résultat. Hein. Ça, on ne peut pas... Donc, après, moi, je peux vous dire, on a une adhérente, elle a fait appel, elle est passée par un avocat, je vais vous dire après pour comment. Bon, et elle a obtenu de gain de cause au bout de 5 ans. Elle était toute fière. Ouais, Nadine, j'ai réussi, je l'ai eu, j'ai mon ALD. Elle a dit, je n'en démordrai pas, ils m'auront. Elle a fait des refus, elle a fait des recours sans arrêt, et elle a obtenu gain de cause. Donc, alors, pour avoir un avocat et tout ça, donc justement, pour ne pas vous défendre tout seul, pensez à vérifier votre. Si vous n'avez pas souscrit. Dans votre multirisque habitation, vous avez souvent un contrat de type défense-recours.
Oui, hein, voilà. Aide juridique.
Et d'aide juridique, voilà, donc auprès de votre assurance. Et eux, en général, bon, on sait qu'il y a des assurances qui ont refusé, mais en général, les avocats de ces assurances acceptent.
Hein. Alors, ça, c'était pour le volet CPM. Maintenant, on va revenir à la MDPH. Avec vous, Ghislaine, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents types de prestations qui existent et les cartes qui peuvent être attribuées?
Alors, au niveau de la MDPH, d'abord, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez toutes fait un dossier MDPH ?
Toutes et tous.
Ah ben, c'est bien. Toutes et tous, oui. Parce que ça, c'est indispensable. Vous, comme Déborah vous l'a dit, au niveau du travail, vous aurez beaucoup plus de chances d'être écoutée si vous avez fait un dossier MDPH. Donc, pour le dossier MDPH, il faut nécessairement demander la RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés. Pour les personnes qui n'ont pas fait de dossier MDPH, les dossiers sont à retirer au CCAS de votre mairie. Je vous conseille de ne pas aller à la MDPH parce que vous avez des hôtesses d'accueil qui font des excès de zèle, qui vous posent la question en disant pour quelle pathologie, si vous dites fibromyalgie, elle vous dira ben non, vous n'aurez rien avec ça. Donc CCAS de votre mairie, vous avez deux dossiers, dossier médical et dossier administratif.
CCAS, Centre d'action, Centre communal d'action sociale, hein, je crois.
Oui, voilà. Oui, oui.
On peut le télécharger en ligne.
Vous pouvez le télécharger. Mais attention, suivant la MDPH dont vous dépendez, vous avez des questionnaires supplémentaires. Je sais que à Paris, dans certains arrondissements, ouais, il y a un questionnaire d'autonomie supplémentaire. Dans le 94 aussi. Hein. Donc là,
soyons
c'est.
Soyons vigilants.
Oui, il faut être vigilant. Donc, vous avez différentes cartes délivrées par la MDPH. À ce jour, il en existe 3, mais depuis le 1er janvier, il va n'y en avoir qu'une seule. Donc, vous avez la carte de priorité, oui. J'ai.
Et puis vous avez des souffleurs, c'est bien.
Oui, oui.
Donc, actuellement, actuellement, il existe la carte de priorité, l'ex-carte station debout pénible de la Sécurité sociale. Après, il y a la carte d'invalidité et la carte européenne de stationnement. Donc, elles disparaissent normalement complètement au 1er juillet. Hein, ça existe depuis le 1er janvier. Les MDPH le mettent en place progressivement. Elles doivent le mettre en place donc, au 1er juillet.
Dans les renouvellements.
Mais dans les nouvelles attributions, les renouvellements. Je veux dire, n'en renvoyez pas vos cartes en disant « j'en veux qu'une seule ». Elle s'appelle « mobilité inclusion ».
Oui. Hein.
Et ne dites pas « j'en veux qu'une seule », non. Ça va se faire sur plusieurs années, parce que si vous l'avez pour plusieurs années, votre carte, ça sera fait qu'à ce moment-là. Les MDPH, de toute façon, ne sont pas en mesure de faire face au flot de nouvelles demandes.
Par contre, au niveau de la carte de stationnement, pour une fibromyalgie, rares sont celles qui l'obtiennent, parce qu'en général, il faut un handicap de 80% ou alors avoir une perte d'autonomie très importante, d'où l'importance du dossier médical rempli par le médecin. Parce que si vous demandez, par exemple, une carte de priorité et que dans le questionnaire médical, le médecin n'a pas rempli le périmètre de marche ou dans les cases marcher à l'intérieur, marcher à l'extérieur, préhension main dominante, motricité fine, il vous a mis des 1 partout, vous pouvez faire une croix sur la carte de stationnement. Hein.
Pour ce qui est des prestations.
Les prestations, donc vous pouvez avoir l'allocation adulte handicapé, mais c'est soumis aussi aux revenus et aux 80% de handicap. Mais je connais des personnes qui n'avaient pas les 80% de handicap et qui l'ont eu. La PCH, la prestation de compensation du handicap. Et la dernière, la RQTH, qui est vraiment très, très importante, qu'il faut absolument demander.
Hein. On t'a parlé, Déborah, tout à l'heure. Hein.
Oui. Reconnaissance de la qualité.
En qualité de travailleur handicapé.
Alors, l'AH est soumise aux conditions de revenus du ménage et non pas de la personne. Donc, si vous êtes en couple, les revenus du conjoint seront pris en compte, malheureusement. Vous pouvez avoir aussi un complément de ressources. Et c'est ce qui arrive assez souvent, donc n'hésitez pas à le demander. La validité CPAM, c'est différent. Le montant de la pension d'invalidité accordée par la CPAM est inférieur à celui de l'AAH. Une AAH différentielle vous sera accordée par la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Bon, le complément de ressources, comme Nadine a dit tout à l'heure, la majoration pour vie autonome. Maintenant, la PCH, prestation de compensation du handicap. Elle est accordée pour tout adulte handicapé vivant à domicile. Mais il y a une évaluation individualisée qui est faite des besoins de la personne par la visite d'une équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Et la décision est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, d'où l'importance d'avoir un très très bon dossier, tant le dossier administratif que le dossier médical. Vous avez plusieurs types d'aides, l'aide humaine, l'aide technique, l'aide liée au logement et au véhicule, l'aide animalière et la procédure d'urgence. Donc, l'RQTH, je crois que c'est vraiment un devoir de la demander pour toutes les personnes qui sont actuellement au travail. Mmh.
Pour obtenir toutes ces aides, Ghislaine, il faut remplir des dossiers. Comment faire pour que son dossier soit bien rempli?
Donc, là, tout à l'heure, j'ai parlé qu'il fallait aller le chercher au CCAS ou le télécharger sur Internet. Donc, vous avez la partie administrative. D'où l'importance du projet de vie. Est-ce que vous avez rencontré, je suppose, des difficultés? Moi, la première fois, j'ai rempli un dossier, projet de vie. C'est très, très complexe. Alors, attention, le projet de vie n'est pas une énumération de tout ce que vous ne pouvez pas faire. C'est ce que vous voulez faire dans le futur. Comment vous voulez évoluer? Par exemple, quand on n'est plus capable d'aller travailler, d'exercer son poste, son travail... on peut demander un bilan de compétences, on peut demander des formations. Mmh. Les MDPH vont aider dans ce sens-là. Hein. Donc, vous avez le projet de vie qui est très, très important et vous avez aussi la prestation compensatoire humaine où vous pouvez avoir une aide. Mais attention, hein, je ne vais pas vous parler de femme de ménage. La MDPH ne paye pas des heures de femmes de ménage. Elle paye des personnes qui servent d'auxiliaires de vie. Donc, vous pouvez faire appel sur un dossier MDPH quand vous recevez une notification. Mais attention, si votre dossier est vide, si le médecin a mal rempli. Bon, moi, j'interviens dans différents établissements thermaux. Et on me fait retour de dossiers MDPH ayant eu des refus. Mais je peux vous assurer que j'ai vu des dossiers MDPH. Le médecin a rempli le nom du patient, la date, la signature. Aucune case cochée à l'intérieur sur les 4 pages. Donc vous imaginez, après les fibromyalgies qui disent « Ah ben la MDPH ne reconnaît pas la fibromyalgie ». Ce n'est pas la faute de la MDPH, c'est tout simplement la faute du médecin.
Dossier mal rempli.
Qui a très très mal rempli, comme pour les ALD, exactement pareil. Mais je comprends que toutes les tâches administratives rébutent un petit peu les médecins. Hein.
On termine. Attendez, on va prendre les questions juste après. On termine peut-être sur les refus. Même question pour...
Ah ben oui, les dossiers sont très très mal remplis. Donc ouais. Vous pouvez toujours faire appel. En général, c'est 15 jours pour faire appel. Mais ça dépend des MDPH. Des fois, c'est un petit peu plus long. Et attention, quand vous recevez la réponse avec la notification, vous avez un délai pour renvoyer la notification signée également. Passé ce délai, vous perdez tous vos droits. Et sachez que pour un dossier MDPH, vous pouvez refaire autant de dossiers MDPH que votre situation de santé évolue. Hein. Donc, il ne faut pas attendre. Et alors aussi, pour le renouvellement, pendant que j'y pense, il faut surtout vous y prendre à l'avance. Alors, en règle générale, dans les 3 mois, vous recevez un courrier avec un numéro d'identification à rappeler dans chaque correspondance. Dans les 6 mois qui suivent, vous avez la réponse. Hein. Mais alors, dans le renouvellement, il faut faire votre demande 6 mois à l'avance, la date de vos fins de droit. Et alors, les dossiers de traitement des MDPH, vous avez des communes, des départements où c'est rapide, mais par exemple, en Seine-Saint-Denis, ça peut aller jusqu'à 2 ans et demi.
Eh oui.
Vous, un mois et demi ?
Un mois et demi ?
Ah ben, vous êtes...
Oui. Vous êtes chanceuse.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de réclamations là-dessus. Donc, c'est vrai. Et après, il faut faire attention dans ce que vous avez demandé. Je vais attirer une attention sur le dossier quand vous déclarez si vous avez des problèmes d'audition ou de vue. Mmh. Attention, tout ce que vous déclarez peut se retourner contre vous. Les médecins ont parlé tout à l'heure de l'air dans l'os, comme Lyme et tout. Moi, j'ai l'air dans l'os. Et l'équipe médicale qui est venue à mon domicile a vu que j'avais des problèmes visuels. J'ai été déclarée en préfecture. Je n'ai plus mon permis de conduire à vie. Donc j'ai un permis de conduire au départ, je l'ai eu pour 2 ans. Et après, il a fallu que je passe une visite médicale. Là, j'en ai un provisoire pour 5 ans, mais je n'ai plus mon permis de conduire à vie. Donc vous voyez...
Dommage collatéraux, là, hein.
Oui, mais ça, c'est mon devoir de le dire parce que moi, j'ai été surprise et ce n'est pas moi qui l'ai déclaré. Et c'est en me voyant œuvrer dans ma maison qu'elles ont vu que j'avais des problèmes. Donc, il faut vraiment faire attention.
Dernière question avant de vous donner la parole dans la salle. Est-ce qu'il y a des organismes pour vous aider face à ces problèmes administratifs ?
C'est à moi.
Ah, c'est vous, Nadine, pardon. Allez-y.
Je peux le dire aussi. Hein.
Bah, santé à vous.
À deux voix. À deux voix.
Oui,
les choristes, allez-y.
Allez,
on est à duo, toujours.
Bon, alors c'est vrai que vous pouvez vous tourner déjà vers des assistantes sociales, de la CPAM et de la MDPH, parce que ces organismes ont des assistantes sociales. Donc, mais pour toute question juridique ou sociale liée à la santé, il y a un service qui est très compétent, qui a été mis en place par le CIS. Le CIS, c'est le collectif interassociatif sur la santé. Donc là, vous avez des écoutants qui sont spécialistes, des juristes, qui vous informent et vous orientent. Donc c'est Santé Info Droit au 01 53 62 40 30. Ouais, mais tout ça, c'est sur notre site, hein, je vais vous le dire
allez
après.
Sur le site.
Donc allez sur notre site à la page Prise en charge administrative et à la page Lien, vous allez avoir toutes ces informations. Hein. Donc c'est Santé Info Droit. Donc 01 53 62 40 30. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des ch'tis, s'il y a des gens de la région Nord-Pas-de-Calais.
Mais oui.
Voilà. Donc, pour les ch'tis, là, je peux vous le dire, parce que moi, je suis une ch'ti immigrée en Seine-et-Marne depuis 1 an. Donc là, vous avez c'est le seul département qui a ça. C'est encore mieux que Santé Info Droit. C'est Santé Emploi Info Service. Ah. Santé Emploi Info Service au 0320. 44, 55, 55. Et eux, ils vous suivent. Donc, vous avez donc, des assistantes sociales, vous avez des juristes et tout ça. Et ils vous suivent pour remplir votre dossier MDPH. Ils vous rappellent 3 mois après, ils vous rappellent 6 mois après. Ils vous aident, si vous êtes en arrêt, pour reprendre, pour refaire votre dossier pour, avant la visite, la contre-visite au médecin du travail.
C'est du sur-mesure.
Donc, ils sont vraiment très, très bien. Donc, vous pouvez aller sur l'île, vous pouvez aller directement chez eux, c'est au port fluvial. Mais autrement, vous pouvez le faire par mail, par téléphone, il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc, comme je disais, tous ces renseignements, de toute façon,